Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez. La France bouge, l'émission de toutes les initiatives positives, les entreprises, les associations, les collectivités. On va découvrir des patronnes et des patrons qui se retroussent les manches. Ils sont là chaque jour au rendez-vous et on en parle avec Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Elisabeth Assayag. Bonjour à toutes et à tous. Les magasins de vêtements ont rouvert depuis 15 jours. Alors tiens, comment ça se passe? Comment le numérique a pris à un certain moment la relève? Comment les marques s'adaptent au télétravail et donc peut-être à une mode plus casual? On parle de tout cela jusqu'à 14h avec le patron de Gérard Darrel.
À la une, et si le monoproduit était l'une des clés de la réussite dans l'entrepreneuriat? Le chemiseur fait uniquement seulement de la chemise sur mesure et son fondateur nous dira pourquoi ça marche si bien.
Depuis 1858, Maison Boinet fait rimer tradition avec modernité en proposant à travers le monde des ceintures en cuir et des pièces de maroquinerie made in France. Ce sera notre saga du jour à 13h30.
Chaque jour, les trophées Europe 1, la France bouge, les trophées de l'avenir, un projet défendu par celle ou celui qui en a eu l'idée. Aujourd'hui, nous avons retenu Jeanne et Gabriel, une garde-robe pour votre enfant qui évolue en même temps que lui. On va la découvrir, ce sera à 13h45.
Et en fin d'émission, demain au travail, tiens, une entreprise qui pousse ses jeunes salariés à partir à l'étranger. On va les découvrir et on lui passe un petit coup de fil aux alentours de 13h50.
Et oui, c'est ça, la France bouge. Restez avec nous, nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
La France bouge sur Europe 1.
Bien sûr qu'elle bouge, cette France, de retour, là, dans le studio Lagardère. Pour une fois, on est là, dans nos murs.
Mais juste, c'est juste aujourd'hui.
Bah
hein.
Oui, parce qu'on part à Carcassonne, là, juste après.
Carcassonne.
Voilà. Bon, bah voilà, vous connaissez toute notre vie. Alors, plus sérieusement, on va s'intéresser aux enseignes de vêtements qui ont donc rouvert, là, il y a de cela maintenant une quinzaine de jours. Comment ces marques ont profité peut-être de la crise pour se réinventer? On en parle jusqu'à 14h avec notre témoin du jour.
Bonjour David Marouani.
Bonjour.
Vous êtes le PDG de Gérard Darrel. Tout le monde connaît Gérard Darrel en France. Darrel qui fête ses 50 ans cette année. Ouais. Vous gérez vous-même vos boutiques, vos corners dans les grands magasins, c'est vous aussi qui les gérez. Plus de 300 points de vente dans le monde. Il y a 800 salariés chez Gérard Darrel. Après avoir cédé l'entreprise en 2008, vous avez repris Gérard Darrel qui était alors en redressement judiciaire. Là, on sort, David Marouani, d'une année très particulière de confinement, de couvre-feu, avec des magasins fermés. Comment ça va depuis 15 jours, date de la réouverture?
Pour l'instant, c'est plutôt pas mal, on va dire. Ça va. Déjà, le fait de pouvoir, quand on est un commerçant et que son activité principale, c'est quand même d'opérer des magasins et de pouvoir vendre ses collections, avoir l'opportunité, si vous voulez, de réouvrir, c'est quand même quelque chose déjà d'exceptionnel. Mmh. Ça a l'air de rien, mais c'est quand même exceptionnel. Le fait de pouvoir que nos équipes puissent retrouver finalement leurs clientes, retrouver leurs magasins. On a trouvé des équipes qui étaient extrêmement mobilisées, extrêmement motivées, très contentes d'être là. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même...
Quand un commerçant dit « c'est pas mal », généralement, c'est que c'est très très bien.
Ouais.
Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, il y a quelques jours, disait « la reprise est très bonne dans l'habillement ». Alors, c'est très très bien ou c'est juste pas mal?
Franchement,
non,
allez,
je veux dire que, on va dire que ce qu'on a vu était très encourageant. En tout cas, je peux parler de chez nous. Après, je parle un peu plus de ce que j'entends, de ce qui se passe sur le marché. Mais c'était très encourageant pour plein de raisons. La première, c'est qu'on a eu vraiment quelque chose qui est positif, c'est le trafic. C'est qu'on a eu beaucoup plus de trafic dans les magasins. Donc, c'est-à-dire que les clientes qui ne sont pas venues pendant quelques mois, elles ont tout de suite retrouvé le chemin, en tout cas de nos magasins. Et ça, c'est quand même très bien. Nous, ce qui était très positif, c'est qu'on a nos clientes fidèles qu'on a retrouvées. Mais il y a aussi des nouvelles clientes qu'on a découvertes et que nos équipes ont découvert. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est aussi très positif pour nous.
Quand vous dites que c'est encourageant, est-ce que vous avez un chiffre? Est-ce que, par exemple, votre premier week-end, il a été exceptionnel? Ça pourrait être comme un week-end de fin décembre. Est-ce que vous avez des chiffres qui indiquent cet encouragement?
Ce que je peux dire, c'est qu'en tout cas, si on se compare à 2019, donc c'est la dernière année de référence qui était...
Dans un monde normal,
année,
on va dire.
Voilà, une année en tout cas où il n'y a pas des fermetures, des ouvertures, etc. On a clairement, sur seulement deux semaines, fait quasiment l'équivalent de ce qu'on avait fait en 2019 sur le monde entier.
Ah oui, donc ça, c'est quand même des chiffres qui sont quasiment votre mois 2019.
Après, c'est deux semaines avec deux semaines qui étaient fermées, donc on peut pas toujours comparer les choses comme cela.
Non, mais ça permet effectivement de mettre comme ça une image derrière le mot encourageant. Alors pourtant, vous avez rouvert avec une collection d'été qui était déjà plus ou moins en magasin avant la fermeture. Est-ce qu'il faut faire des offres promotionnelles pour faire venir les gens? Est-ce qu'il faut brader un petit peu tout ça?
Alors, déjà, la collection printemps-été, sincèrement, vous savez, il y a beaucoup de fermetures qui ont commencé dès fin janvier. Mmh. Donc là, si vous vous rappelez du climat de l'époque, on était plutôt dans l'automne.
C'est vrai que ce n'était pas les 25 degrés du moment.
On est passé du manteau donc, au maillot.
Donc je dirais que je pense que pour beaucoup de clientes, alors elles ont découvert les collections et aussi sur nos réseaux sociaux, elles ont découvert ce qu'on avait à proposer pendant toute cette période de fermeture, c'est certain. Mais néanmoins, le redécouvrir en vrai et vraiment la découvrir en vrai, ça a commencé quand même qu'il y a 15 jours. Donc ça, c'est un point intéressant.
Alors, c'était il y a à peine 15 jours, nous sommes le 3 juin, et justement, les soldes de juin ont été repoussés d'une semaine.
Oui.
C'est une bonne nouvelle alors pour vous, vous allez pouvoir vendre quand même au prix fort d'ici là.
Je ne sais pas si on peut raisonner tout à fait comme ça. Vous savez, ce qui compte en final, c'est de voir ce que la consommatrice, elle veut et comment elle va réagir. Il faut savoir que le mois de juin, c'est un mois particulier dans le sens où en fin juin ou début juillet, il y a beaucoup de gens quand même qui partent. Peut-être en plus suite au fait que les gens n'ont pas beaucoup bougé quand même pendant pas mal de mois, peut-être qu'ils vont être plus enclins encore à bouger plus rapidement. Donc je peux pas tout à fait commenter si je suis content ou pas content, mais
ils
ce que je peux dire. Comment ?
Ils ont bien fait de décaler ou pas ? Parce que de ce qu'on entend, vous dites j'en sais rien. Quoi.
Moi, ce que je dis, ma façon de penser, c'est nous, on a ce qu'on contrôle et ce qu'on ne contrôle pas. Ce qu'on contrôle aujourd'hui, c'est on nous a donné une date et on va s'organiser par rapport à ces dates. On a aussi des partenaires grands magasins, comme vous l'avez dit, on a des corners avec les principaux grands magasins français. Donc tout ça, c'est des choses qui se coordonnent et qui s'organisent et on va faire au mieux. Et encore une fois, si.
Mais dans tous les cas, ce qui a beaucoup changé.
Ce que je dis souvent, c'est qu'un match de tennis, ça se gagne en regardant la balle et pas en regardant le tableau d'affichage. Donc là, on va juste regarder la balle, essayer de vendre nos produits, essayer d'exécuter, si vous voulez, par rapport à tout ça.
Et c'est une belle métaphore, puisque je rappelle qu'Europe 1 est la radio partenaire de Roland Garros.
C'était pas pour rien que je parlais de match de tennis.
Et vous savez quoi ? On va vous embaucher, on va vous garder à la fin. Attention. Hein.
David Marouani, vous êtes le PDG de Gérard Darrel. Des résultats très encourageants depuis la réouverture de vos magasins. Vous restez avec nous, bien sûr.
Europe 1.
Et sur Europe 1, il est 13h17.
Ils reproduisent votre chemise préférée, sur demande, des initiales au poignet, des emplacements de la poche ou aussi plusieurs tailles de poches différentes, il y a de tout. Selon la taille de la personne, c'est le concept de cette belle start-up, Emmanuel.
Oui, elle s'appelle le chemiseur, rien que le nom dit tout, et bien son fondateur sera avec nous pour tout nous expliquer dans un instant. Elle bouge et elle achète, semble-t-il, cette France. C'est ce qu'on voit depuis le début de cette émission. On fait un premier bilan de la réouverture des magasins de vêtements. Ça fait maintenant 15 jours que tout ça a pu rouvrir. Et on l'entend avec David de Marioni, qui est le patron de la marque Gérard Darrel. Et ben, les clients et les clientes sont au rendez-vous. Et ça repart plutôt pas mal. En 15 jours au mois de mai, ils ont fait autant que sur le mois de mai 2019, qui est le dernier mois comparable à peu près normal.
Et si le monoproduit était plus attractif quand on se lance dans l'entrepreneuriat, surtout quand on a une idée complètement dans l'air du temps. Bonjour Yann Cheteux.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur du site Le Chemiseur. C'est de la chemise sur mesure pour hommes. Ça existe depuis 7 ans. Et votre idée de base, c'est zéro solde, zéro stock, zéro gâchis, avec un prix qui démarre à 79 euros. Alors, qu'ont-elle de particulier vos chemises ? Tout se fait en ligne, sur mesure. Comment est-ce possible ?
Donc ma démarche... Fondamentalement, moi je suis un ingénieur d'origine allemande, j'ai longtemps travaillé dans l'industrie automobile.
Ah oui, c'est ça, rien à voir avec le textile.
Mais si, quand même, il y a des similitudes, parce que dans l'automobile, c'est du sur-mesure industrialisé aussi. Donc chaque voiture est différente, coloris, options, etc.
Et donc dans l'automobile, trouver un lien entre l'automobile, le textile automobile sur mesure et le textile sur mesure pour nous, êtres humains.
C'est en partie les mêmes principes industriels. Et dans l'automobile... On fait très attention de produire seulement des voitures qui sont effectivement demandées, soit commandées, soit qui vont vraiment se vendre. Ce serait trop cher sinon, bien sûr.
Et donc, vous allez appliquer le même modèle.
Ma vision depuis le début, c'est que l'habillement va progressivement basculer dans cette même logique industrielle, qu'on produit seulement vraiment les produits demandés. Exactement comme ils sont demandés.
Donc sur mesure.
Ce qui est intéressant, c'est-à-dire que ce qui est important, c'est la sur mesure, mais de ce que j'entends, si on continue la comparaison avec l'automobile, c'est presque plus le personnalisé, plus que le sur mesure. C'est chacun avoir quelque chose de différent, qui nous va bien, qui est bien ajusté, mais qui est aussi différent du voisin, d'une certaine manière.
Exactement, les gens aiment bien, même si ce n'est pas forcément farfelu, mais choisir leur col, ou avoir leurs initiales. Et il y a le côté écologique aussi un petit peu derrière, puisque du coup, on évite d'avoir ce problème des soldes, de surstock.
Donc du sur-mesure, pas de stock, donc c'est fait à la demande. Et puis vous avez inventé, vous avez mis en place une idée assez géniale, c'est que chez vous, il n'y a pas de taille, c'est un code à 5 chiffres, un QR code sur l'étiquette, qui permet de recommander la même coupe sur une autre chemise. Donc vous poussez le sur-mesure jusqu'à l'extrême.
Exactement. Donc derrière cette vision de rendre le sur-mesure accessible pour tout le monde, il y a toute une série d'innovations qu'on a fait depuis 7 ans. Et la première, la plus simple, mais la plus ludique finalement, c'est que dans chaque chemise, il y a un petit code alphanumérique qui permet de recommander facilement. On indique la clé de coupe sur le site et on peut recommander la même coupe, peut-être avec un autre tissu ou en ajoutant encore un centimètre.
Si jamais on a un peu grossi pendant les confinements. Justement, les confinements, ça vous a profité à un moment où on ne pouvait pas aller dans les boutiques. Des gens ont peut-être cherché d'autres solutions pour s'habiller et auraient pu arriver sur des solutions comme les vôtres. Et qu'en a-t-il été ?
Oui, donc on a fait une bonne année, aussi parce qu'on a commencé à avoir une certaine maturité, je pense, de toute façon. Peut-être la fermeture des concurrents a aussi aidé, donc c'était quand même une bonne idée. Année, et compte tenu du fait que les gens business quand même allaient moins au bureau, c'est une bonne surprise. Finalement, j'étais quand même stressé au début d'année.
Donc vous étiez stressé, mais finalement ça a bien roulé, ça a bien fonctionné votre entreprise.
Ça a bien roulé, et puis on a beaucoup de travail de fond pour améliorer le site. Maintenant, c'est encore plus simple de commander. On indique juste son poids taillage, et le site maintenant peut proposer une coupe qui est basée sur les données des 10 000 premiers clients qu'on a eus.
Ce qui est intéressant, c'est qu'Elisabeth disait qu'il faut peut-être commencer par un monoproduit pour être vraiment dans sa cible, pour réussir, ce qui a été votre cas. Mais vu que ça marche bien, vous élargissez, puisque maintenant, c'est pas mal d'avoir un pantalon quand on a une chemise, et vous allez élargir au pantalon. Vous êtes en train de tester déjà en ce moment ?
Exactement. Donc, beaucoup de nos clients nous disent que maintenant qu'ils commencent à retourner au bureau, ils ne peuvent plus trop mettre le costume qu'ils mettaient tous les matins depuis 15 ans. Maintenant, c'est un peu plus, ils ont envie de s'habiller un peu plus casual aussi. Mais quand même, il faut que ce soit propre. Donc, vraiment, on est convaincu que le beau pantalon smart casual sur mesure, le marché va exploser. Et comme on a un vrai savoir-faire sur les chemises, ça fait un an maintenant qu'on travaille dessus. Maintenant, on le teste depuis quelques mois avec nos clients historiques et nos meilleurs clients. Et c'est maintenant en précommande sur notre site.
Donc la prochaine fois, ce sera pour le pantalon. David Maroigny, vous êtes le PDG de Gérard Darrel, vous êtes notre grand témoin du jour. Là, on parlait du sur-mesure, mais on parlait aussi du stock. Quand on va chez vous, on peut trouver à peu près des vêtements similaires, que ce soit dans le magasin de Paris, de Lille, de Bordeaux ou de Nice. Est-ce que vous aussi, vous envisagez de raréfier, entre guillemets, vos stocks, de façon à ce qu'on ait l'impression d'avoir un modèle un peu exclusif? Est-ce que vous allez vers cette tendance-là aussi ?
Alors déjà, nous, on a une des philosophies de la maison Darrel depuis toujours, c'est un peu l'anti-industriel. C'est un peu l'anti... on fait la même chose partout. Ça, c'est vrai depuis les années 70, depuis que Mme Darrel a créé cette entreprise. Cette logique d'avoir les mêmes produits partout, d'avoir les mêmes concepts de magasins, etc., ça n'a jamais été la nôtre.
Oui, mais il y a des modèles qu'on retrouve dans plein de magasins.
Bien entendu, c'est évident.
Mais donc, vous avez des modèles particuliers où vous dites, tiens, ça, c'est juste pour...
On fait des capsules qu'on va mettre dans une boutique et pas dans une autre. On va faire des produits dans certaines couleurs qu'il n'y aura pas nécessairement de... Alors, bien sûr que sur notre site internet, l'offre est beaucoup plus large. Mais néanmoins,
c'est que vous adaptez, j'en sais rien, par exemple, dans le sud de la France, on va mettre des choses plus légères parce que...
Ouais, dans le sud, et même des fois plus fin que ça, on va réfléchir suivant on va faire ce qu'on appelle des clusters, pour utiliser des mots un peu techniques.
Qu'on
ou des
a
groupes,
tous connus, là, on a tous appris clusters.
On va prendre des groupes de magasins, parce qu'il y a aussi l'étranger, il y a aussi des pays comme les États-Unis, on opère, il y a l'Angleterre, il y a l'Espagne, et ça, il y a des comportements d'achat qui sont relativement différents. Et donc déjà, par rapport à ça, il y a cette notion d'essayer de pas avoir partout la même chose, c'est quelque chose qui est pour nous essentiel depuis toujours. Après, si vous êtes... Allez-y.
Yann Schotten, je rappelle que vous êtes le fondateur du site Le Chemiseur. On n'a parlé que d'hommes, alors c'est rare que ce soit dans ce sens-là. Est-ce qu'un jour, vous ferez la femme aussi ?
Déjà, on essaie de faire très très bien l'homme, et peut-être plus tard, mais c'est vrai que sur le concept de clé de coupe, il y a beaucoup d'hommes, une fois qu'ils ont la coupe de chemise ou de pantalon qu'ils aiment bien, ils sont très fidèles après, et c'est ça qui marche chez nous. Je pense que sur la femme, ce serait un peu plus compliqué, mais peut-être que... Darrel peut en savoir plus.
Yann Schotten, vos matières viennent d'où ? Ils sont...
Donc chez Le Chemiseur, on utilise des tissus européens, donc français, italiens, vraiment haut de gamme.
Du haut de gamme. Et ça démarre à 79€. Et puis après, si on veut personnaliser, mettre nos initiales partout, ce sera évidemment plus cher.
Les initiales, c'est toujours inclus. Il y a le cœur de gamme, c'est 99€, même pour les tissus italiens. Et après, il y a quelques tissus plus haut de gamme, même en mérinos.
Ça s'appelle le chemiseur. Merci Yann Cheteux, vous en êtes le fondateur. Merci d'être venu dans la France Bouge nous présenter votre entreprise.
Et David Mermani, le PDG de Gérard Darrel, on vous garde avec nous. Vous êtes notre grand témoin jusqu'à 14h.
Europe 1.
13h27 sur Europe 1, direction Château Renaud en Indre-et-Loire. Là-bas, on fabrique des ceintures en cuir, des pièces de maroquinerie depuis 1858.
Oui, là encore, c'est une entreprise du patrimoine vivant. Vous la connaissez peut-être, c'est Maison Boinet. Ce sera notre saga du jour dans la France Bouge. Et la France Bouge, on est comme chaque jour très heureux avec Elisabeth de vous accueillir là autour de la table de la France Bouge chaque jour en direct de 13h à 14h aujourd'hui avec David Mermani qui est le PDG de la marque de vêtements Gérard Darrel. On l'entend depuis le début de l'émission, ça repart plutôt pas trop mal depuis la réouverture des magasins. Des magasins qui n'ont finalement jamais été totalement fermés puisque grâce au numérique, vous avez pu garder un lien avec vos clientes et vos clients. Vous avez gagné combien de temps dans votre stratégie numérique ? Grâce à cela, grâce à cette crise d'une certaine manière, si on peut le dire ainsi.
On a une accélération, clairement en un an, sur tout ce qui est, on va dire, digital au sens large. Et la façon de penser, en fait, l'entreprise, on l'a fait en un an, ce que peut-être on aurait fait en 5 ans, pour plein de raisons. La première, c'est que déjà, les clientes, les consommateurs ont évolué très très vite. Et nous, on a évidemment eu le besoin d'aller vite pour s'adapter à la situation. On a mis plein de choses en place. Donc, bien sûr, l'évolution du site Internet, qui est un point important. On a lancé une nouvelle plateforme qui a très bien fonctionné. On a beaucoup évolué sur les réseaux sociaux, donc beaucoup de présence sur les réseaux sociaux pour interagir avec notre communauté et lui donner même un caractère un peu de magazine, hein, donc de pouvoir échanger même au-delà du produit. Mmh. Et on a même pris des initiatives, notamment qu'on appelle Click de collègues, ça veut dire d'avoir des équipes de vente en magasin qui vont vendre en vidéo et échanger, faire du personal selling.
Mais vous allez garder toutes ces habitudes après ou c'était très conjoncturel ?
Moi, je suis convaincu que ce qui s'est passé, c'est quelque chose de totalement structurel. D'accord. Et que les choses qui changent, elles changent et qu'il n'y a pas de notion de retour à la normale ou retour en arrière. J'ai jamais vu ça de l'histoire.
Oui,
ça,
mais quand même, il y a de nouvelles habitudes qui ont été prises. C'est-à-dire Exactement. Que vous avez des clients qui désormais n'iront peut-être plus dans votre magasin et vont faire leurs achats via le site internet. Donc, il faut quand même que vous ayez une structure, un système logistique adapté à cette nouvelle forme de consommation.
Absolument. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est donner en fait au client le choix et lui offrir aussi un service totalement omnicanal, comme on dit, c'est-à-dire qu'il aille en magasin, sur internet, etc. Il a un degré de service qui soit équivalent, qu'on soit capable de lui donner ses réponses et en même temps qu'on crée une expérience en magasin qui justifie finalement le déplacement.
Donc vous vous êtes complètement réorganisé.
Complètement réinventé, réorganisé. Et en fait, c'était des tendances qui étaient déjà là avant. Faut pas non plus, on n'a pas inventé le digital il y a un an, mais néanmoins, il y a eu cette accélération massive et surtout la prise de conscience que il fallait évoluer très très vite.
Est-ce que ça change le rôle du vendeur et de la vendeuse aussi ? Puisque maintenant, vos clients et clientes, quand elles entrent dans le magasin, peut-être qu'elles ont déjà toute la collection en tête parce qu'elles l'ont vu sur Internet, elles savent qu'il y a le produit en magasin. Et du coup, le vendeur a un autre rôle, peut-être encore plus de super conseiller pour aller un petit peu plus loin dans la relation client ?
Absolument. Mais ça, je pense encore une fois que c'était vrai avant tout ce qui s'est passé. C'était déjà une tendance lourde. Nous, on parle de ça avec nos équipes. On met beaucoup d'accent sur la formation. Les équipes de vente en magasin, ce sont des conseillers. Je pense que les clientes qui arrivent, elles connaissent souvent très bien. Elles ont une vraie expertise sur les qualités, sur ce qui se fait ailleurs. Et donc, le rôle, c'est vraiment de leur donner des conseils, de voir par rapport à leur physionomie, par rapport à leurs besoins, qu'est-ce qu'on peut leur proposer. Et pour nous, c'est une évolution qui est encore une fois depuis toujours. Et comme on a, philosophiquement, on est quand même une maison de commerce depuis longtemps, on a cette expérience. On a toujours eu cet axe très important de dire qu'en magasin, il y a une vraie expérience qu'il faut offrir à quelqu'un. Et que c'est ce qui fait qu'on va se déplacer. Et encore plus aujourd'hui, où vous n'avez même plus besoin de vous déplacer pour acheter.
Alors justement,
il faut une bonne raison.
Aller en magasin, est-ce que cette période que l'on vient de traverser depuis la réouverture, est-ce que vos clientes, est-ce qu'elles viennent toutes faire leurs achats le samedi ou est-ce que le samedi après-midi, c'est devenu le lundi matin ? Je ne sais pas. Est-ce que la fluidité, la fréquence de visite de vos magasins ont changé, se sont modifiées ces derniers temps ?
Oui, elles se sont un peu modifiées. Je pense que c'est aussi dû à la notion de télétravail. C'est-à-dire que les gens, il y a moins 5 jours, on n'est pas disponible. Et puis après, il y a le week-end.
Plus flexible,
donc,
oui.
Donc ça a permis certainement d'avoir un meilleur équilibre. Enfin, néanmoins, la fin de semaine reste meilleure que le début de
toujours.
Semaine.
Ça
c'est
pas
toujours
changé.
Une réalité. Donc ça, ça n'a pas vraiment changé, parce que pour plein de raisons, on est quand même plus libre. Et puis des fois, il y a dans l'achat, j'aime pas cette notion d'achat d'ailleurs, il y a vraiment un plaisir, les gens se baladent, ils découvrent, et puis bon, peut-être ils achètent. Mmh. Je pense bien que les gens vont acheter des vêtements comme on va faire ses courses, quoi. Il y a quand même une notion de découverte. Mmh.
Justement, vous êtes une marque.
Et le samedi, on est un peu plus libre des fois que pour découvrir.
Et on est plus dans cette notion de plaisir, effectivement, voilà. Quand on a la chance de pouvoir se balader. Gérard, vous êtes plutôt dans une marque plutôt haut de gamme, plutôt chère, on va le dire, qui parfois est une marque de la célébration, une marque pour se faire plaisir, pour avoir le beau petit chemin, la beau petite veste pour aller au rendez-vous important au travail. Est-ce que malgré tout, avec le télétravail qui est en train de se développer, ça vous oblige à repenser votre gamme vers, comme on dit, une mode plus casual, plus simple peut-être ?
Enfin, oui, dans la collection Darrel, on a toujours eu ces différentes composantes, cette composante casual, ou on peut dire sport, ou sport chic, comme on veut la définir. C'est quelque chose qui a toujours été très important chez nous, que ce soit les jeans, que ce soit la maille. On a un jean qui est le jean Anna, qui est un jean iconique qui a été porté par plein de célébrités, et c'est vraiment un des fers de lance de notre collection de jeans. Après, il est évident que, vu l'air du temps, on a certainement accentué un petit peu cette partie de la collection. On a lancé une collection homewear de sweatshirts en coton bio. Mmh. On a fait pas mal de choses, si vous voulez, pour offrir finalement par rapport à la demande.
Mmh. Cette demande de confort, parce qu'il y a la maison.
Exactement.
Alors, chaque jour dans La France Bouge, David Marouani, on se pose, on découvre l'histoire d'une entreprise, d'un produit ou d'un endroit qui font la fierté de notre pays. Aujourd'hui, on va découvrir une histoire qui se cache derrière des ceintures en cuir. Ça se passe en Indre-et-Loire, à Château Renaud. Et ça se passe depuis 1858.
Ça fait donc 163 ans d'histoire. Ils fabriquent aussi bien des bracelets, des sacs, des pochettes, des manchettes en cuir. Ça s'appelle la Maison Boinet et c'est notre saga du jour racontée par notre fashionista à nous, Darwan Adar.
Europe 1, La France bouge, la saga.
Quand on entre dans les ateliers de la Maison Boinet à Château Renaud en Touraine, c'est l'odeur du cuir qui vous saisit d'emblée. Il est partout. Cuir en croûte pleine, fleurs vachettes et de toutes les couleurs. Les rouleaux de cuir côtoient des bobines de fil coloré. L'histoire a commencé avec des boutons à coudre en nacre ou en ivoire. Mais dès les années 30, Maurice Boinet comprend que c'est la fabrication de ceintures pour hommes qui lui feront gagner sa vie, grâce à la qualité de belles matières et un savoir-faire artisanal qui font encore leur succès aujourd'hui. Bruno Jourdui, directeur général de la Maison Boinet.
C'est un savoir-faire sur les finitions, donc de jolies coutures, des jolies teintures aussi sur les tranches de ceinture, très important. C'est aussi de la créativité, c'est de renouveler en permanence les collections, de ne jamais être sur des produits identiques chaque saison.
Et de la nouveauté, il en faut, car les femmes, nouvelles clientes de la maison, en réclament. Car la ceinture est devenue en quelques années un vrai accessoire de la mode féminine.
On était surtout connu pour les ceintures masculines. Et puis voilà, sur un marché qui était en train un petit peu de se rabougrir, il était important de trouver des nouveaux marchés, sachant qu'en plus, quand on regarde un petit peu sur le marché, les marques de ceinture femmes, il en existe peu. On trouve dans chaque maison de luxe des petites collections de ceintures, mais il n'y a pas de marque de ceinture femme à part entière.
La Maison Boinet, après avoir conquis les femmes, a décidé de partir à la conquête du marché asiatique en ciblant le Japon, un pays très sensible à ce raffinement et ce chic à la française.
Il y a une vraie appétence de la part des Japonais pour les produits made in France, parce que la France symbolise le raffinement, la créativité. Les acheteurs japonais sont souvent assez suiveurs. Quand vous voyez une marque dans un magasin, ça fait ricocher et après les autres viennent. Commencer une première saison avec 3 grands concept stores. Et puis après, de fil en aiguille, ça s'est développé. Et les clients japonais, si vous amenez à la fois de la qualité, de la créativité et du service, ce sont des clients que vous gardez tout le temps, en fait.
Après une année difficile, cette maison labellisée Entreprise du patrimoine vivant voit depuis 15 jours et la réouverture des magasins son chiffre d'affaires repartir à la hausse. Créé sous Napoléon III, il semble qu'elle n'ait pas dit son dernier mot.
Et c'était la saga du jour racontée par Dora Nana. On parle de mode aujourd'hui avec notre invité principal David Marouani, qui est le PDG de Gérard Darrel. Est-ce que le marché de la seconde main est un marché sur lequel vous comptez aller? Puisque de plus en plus de marques, un concurrent de Gérard Darrel, se lance sur ce marché. Est-ce que vous y réfléchissez aussi?
Oui, bien sûr. Aujourd'hui, la caractéristique du produit Gérard Darrel ou de ce qu'on fait dans la maison Gérard Darrel sont des produits de grande qualité assez durables. Ce qui veut donc dire que quand vous regardez les différentes plateformes de seconde main, vous trouvez beaucoup de Gérard Darrel et des produits des fois assez anciens qui, quand on les regarde, on a fait ça récemment d'ailleurs, sont encore quasiment dans l'air du temps. Donc nous, bien sûr, quelque part, on y participe très, très largement. De là à être nous-mêmes acteurs de la seconde main, y a un pas à franchir. Même si on travaille sur un projet dont je ne peux pas parler là, on en parlera peut-être une autre fois.
sur
ce sujet de tout ce qui est vintage, etc.
Mais justement,
et trouver un axe différent de ces plateformes qui font très bien leur travail de vendre des produits vintage.
Justement, vous parlez de vintage. Ce matin, en parcourant un petit peu les internets, je voyais des ventes de colliers, de votre fameux collier, le collier de Jackie O que vous aviez Jackie Kennedy, aux enchères en 1996. C'était un vrai pari ce que vous aviez fait, ça a cartonné. Moi, je l'ai vu ce matin en vente aux enchères sur eBay, je peux le dire, à 39 €. Je trouve ok. Je me suis dit, c'est dommage que vous n'ayez pas votre propre plateforme. Et deux, je voulais vous demander, est-ce que vous envisagez de refaire un autre coup pareil? Parce que c'était exceptionnel, cette histoire du collier de Jackie Kennedy.
Alors oui, c'était exceptionnel, surtout que ça a été fait de façon, pas nécessairement avec une vision très commerciale au départ. La vision était de rendre hommage dans cette vente aux enchères qu'elle avait organisée posthume à son décès, parce que c'était une femme qui représentait très très bien les valeurs de la maison Darrel. Donc c'est une femme qui est intemporelle et moderne, qui est élégante. Et il s'avère qu'après cet achat, quand on est rentré à Paris, si vous voulez, il y a eu cette demande, il y a eu cette réédition, mais je pense pas qu'il faille nécessairement se dire on va faire un coup, on fait un coup et puis ça marche.
Ça
marche, tant mieux.
C'est qui pour mais vous cette qui incarne la femme Gérard Darrel alors aujourd'hui?
Jackie Kennedy pourrait très bien l'incarner. Charlotte Gainsbourg, qui a été à un moment notre égérie, pourrait très bien l'incarner. Il y a énormément de femmes qui ont ce cas. Peut-être vous pourriez l'incarner.
Mais bien sûr, vous êtes belle comme tout.
Franchement, cette femme élégante et en même temps dans l'air du temps, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se reconnaîtraient dans ces paroles.
Donc plus de colliers achetés aux enchères ou de pièces un peu exceptionnelles qui pourraient marquer encore l'histoire de Gérard Darrel, David Marouani. Vous restez avec nous jusqu'à 14h.
Europe 1.
Et il est 13h42.
Direction les trophées Europe 1, la France bouge. Le pitch du jour, Jeanne et Gabriel.
Oui, c'est une garde-robe pour votre enfant qui évolue en même temps que votre enfant. Ça veut dire quoi? Eh bien, on vous explique tout dans un instant. Allez, c'est l'heure des trophées Europe 1, la France bouge. Chaque jour, elle ou il tente de vous convaincre. Pour cela, ils défendent leur dossier devant l'œil attentif et exigeant de notre témoin du jour. En l'occurrence, aujourd'hui, David Marouani, qui est le PDG de Gérard Darrel. Et bien évidemment, Nathalie Carré de la Chambre de commerce et d'industrie qui est déjà avec nous.
Et encore une bonne idée dans la France bouge, lancée il y a quelques mois à peine. C'était en octobre dernier. Bonjour Baptiste Nassois.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur de Jeanne et Gabriel. Jeanne et Gabriel, ça nous permet de louer des vêtements pour notre enfant à partir de 29 € par mois. Une garde-robe pour notre enfant qui va évoluer en même temps que lui. Vous avez 22 ans déjà. Pourquoi cette idée à 22 ans?
Alors moi, j'ai toujours été passionné par l'entrepreneuriat et je pense, comme beaucoup de jeunes de mon âge, la conscience écologique est rentrée dans la partie. Et donc, pourquoi on s'est tourné vers le secteur de l'enfance? C'est parce que finalement, en fait, c'est les premiers touchés sur les décisions qu'on va prendre maintenant.
Pour le reste de leur vie. Alors justement, vous allez nous parler de Jeanne et Gabriel. On écoute votre pitch. Vous avez une minute.
Alors nous, on est parti du constat du coup que les enfants grandissent très vite et que renouveler leur garde-robe coûte très cher, environ 700 € par an. Du coup, de ce constat-là, en octobre dernier, on a décidé de lancer Jeanne et Gabriel, donc le premier service de location de vêtements bébés. Le fonctionnement est très simple, dès 29 € par mois, nous on a des stylistes en interne qui vous font une sélection de vêtements, qui vous l'envoient chez vous. Vous recevez chez vous du coup ces vêtements qui sont de marque française et de seconde main. Et une fois qu'ils sont trop petits, vous nous les renvoyez, on vous les échange gratuitement pour la taille au-dessus. Donc le principe de Jeanne et Gabriel, c'était vraiment de créer une garde-robe qui évolue en même temps que la croissance de l'enfant, mais surtout qui s'adapte à la croissance de l'enfant, parce que chaque enfant grandit de manière différente. Et donc c'était vraiment ça le but de Jeanne et Gabriel, c'était de créer quelque chose qui s'adapte à l'enfant et qui en plus a une conscience écologique.
Et ben voilà, déjà bravo pour ce pitch Baptiste. Alors je précise bien pour que les gens comprennent, c'est 29 € par mois et avec ça on a le droit à 5 articles. Vous dites que ces articles valent en moyenne entre 250 et 300 € si on devait les acheter en magasin. Et pour ceux qui se diraient il est bien gentil mais s'il nous donne une petite veste en jean le 12 novembre ça va peut-être pas être très pratique. En hiver vous promettez par exemple de mettre au moins une doudoune et un pull pour la saison d'hiver.
Tout à fait, on essaie de s'adapter au maximum à la saison.
Et après, on vous le rend parce que la doudoune, parfois, elle n'est pas en bon état à la fin de l'hiver.
Oui.
Alors nous, en fait, derrière, on a une équipe qui soit remet les vêtements en état si c'est possible. Sinon, si les vêtements ne rentrent plus dans notre charte et qu'on ne peut plus les proposer à nos clients, nous, on les donne gratuitement à une association.
Ah, d'accord. Donc, vous n'êtes pas obligé de les acheter ou de rembourser quoi que ce soit.
Non, ça fait partie de la vie des vêtements.
Vous avez entièrement raison. Alors, je vous présente Nathalie Carré-Baptiste. Bonjour, Nathalie.
Bonjour, Elisabeth. Bonjour, Baptiste.
Bonjour,
Daniel.
Bonjour.
Nathalie, en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie, qui a des petites choses à vous dire. Quelles sont les forces et les faiblesses de Jeanne et Gabriel ?
Alors les forces, le site est bien documenté, la commande est rapide et vous utilisez des emballages réutilisables de Hipli qu'on a reçus France Bouge.
Bien sûr, qui sont en liste d'ailleurs pour les trophées de l'avenir.
Exactement. La France Bouge, le 9 juin.
Et donc vous avez vraiment réfléchi à tout pour faciliter la vie des parents, bravo. Excellent le chapitre pour aider à choisir entre vous et Vinted, parce que la question est tout à fait légitime. Et puis bravo aussi pour la carte cadeau à offrir aux jeunes parents. Donc fini la prise de tête sur les tailles de ces bébés qui effectivement parfois grandissent bien vite. Un point d'amélioration, une suggestion. Alors probablement pour rassurer les parents, vous avez choisi des marques très connues comme Jacques a dit au Bon Point. Pour plus de cohérence avec votre volonté de prendre soin de la planète, pourquoi ne pas choisir des marques peut-être moins connues, mais 100% responsables. Vous savez, on peut vite aller vérifier l'éco-responsabilité des marques sur Internet. Puis une suggestion, pour assurer sur la qualité des vêtements de seconde main, expliquer comment vous trouvez les vêtements, indiquer les points de contrôle que vous faites, vous savez, un peu comme les contrôles techniques d'une voiture. Transformer vos 100 premiers clients, par exemple, en ambassadeurs qui seraient récompensés pour tout nouveau client apporté. Démontrer l'économie financière réalisée. Bref, votre offre répond à une attente qui augmente petit à petit, mais qui est encore confidentielle. Il faut donc tout faire et faire de la pédagogie pour que les choses avancent.
Bon, donc je sens Nathalie très convaincue, en tout cas, par votre projet, ce qui est très positif pour vous. Baptiste Nassois, que lui répondez-vous ? C'est-à-dire qu'elle dit qu'on en est au tout début, finalement, de cette grande aventure de location de vêtements pour enfants.
Déjà, je pense que la conscience, les consciences sur le seconde main ont vachement évolué ces dernières années avec des grandes plateformes, etc. C'est sur ça, d'ailleurs, c'est sur ce principe-là qu'on a créé Jeanne et Gabriel. On s'est aussi rendu compte que en fait, ces plateformes elles sont pas du tout hiérarchisées et pas du tout cadrées. C'est une perte de temps énorme d'acheter et de revendre sur ces plateformes-là. Et donc nous, on a voulu mettre en forme ce marché de la seconde main.
Ce que disait aussi Nathalie Carré, c'est peut-être d'aller sur des marques moins connues, puisqu'elle citait quelques marques, on peut ajouter Cyrillus, Jacques Addy, qui sont par ailleurs des marques assez chères à la base. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir encore un package peut-être un peu moins cher que vous pourriez proposer avec des marques
plus
entrée de gamme?
Alors, on y a réfléchi. Le vrai point pourquoi on a choisi ces marques-là, c'est parce que nos clients ne peuvent pas choisir les vêtements en fait, qu'ils reçoivent. C'est le principe de Jeanne et Gabriel, on veut leur faire gagner du temps. Et du coup, en fait, en prenant des marques qui sont connues de tout le monde, qui ont des styles qu'on reconnaît dans la rue, même sans voir la marque, on sait que nos clients s'attendent à recevoir un certain type de vêtements sans même les voir.
Mais alors, c'est là pour leur donner confiance d'une certaine manière. Ils sont sûrs de ne pas être déçus puisqu'ils se disent que potentiellement ils auraient pu l'acheter eux-mêmes. David Mariani, vous êtes le patron de Gérard Dahl. Vous en pensez quoi là avec votre œil d'entrepreneur du monde de l'habillement?
Je pense que c'est un concept très intéressant. Je pense qu'il y a déjà dans l'enfant, on a clairement cette notion d'enfant qui grandit très vite et donc ce besoin finalement de changer sa garde-robe. Après, je pense qu'il y a toutes les questions opérationnelles qu'il faut se poser sur la gestion de tout ça, comment ça peut être profitable, et puis de vraiment la taille du marché, c'est-à-dire des personnes qui sont aujourd'hui, à ce jour, prêtes ou capables d'adhérer à ce modèle. Parce qu'il y a un changement quand même de mentalité qui est en cours, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais il faut voir à quelle vitesse et à quelle célérité ça va se passer.
Parce que pour le moment, la cible est très limitée. Hein. C'est 0,24 mois, donc 0,2 ans.
Ouais, en fait, on a pris 0,24 mois parce que c'est le moment
pour démarrer.
On a pris 0,24 mois parce que c'est le moment où les enfants, du coup, changent le plus de taille. En fait, ils changent 8 fois de taille entre 0 et 24 mois. Au-dessus, ça avait un peu moins de sens parce qu'on peut changer de taille une fois tous les ans.
Vous pourriez aller vers les ados, un de ces quatre.
On pourrait.
Ça change vite. Hein.
Ça change toutes les semaines.
Et puis, on nous le demande, en fait, au-delà de ça. Donc on y réfléchit.
Vous reviendrez en tout cas nous en parler, Baptiste Nassois. Vous êtes le fondateur de Jeanne et Gabriel. Vous voulez louer vos vêtements? Et bien c'est simple, hein, grâce à ce site, vous pouvez pour vos enfants qui sont âgés entre 0 et 24 mois. Merci à vous d'être venu dans la France Bouge.
Et Nathalie Carré, on vous dit à demain. Si vous aussi, vous avez comme ça envie de venir présenter votre entreprise, et bien c'est très simple. Une seule adresse, 20-lafrancebouge@europe1.fr. Et vous aurez comme ça peut-être la chance de faire partie de nos candidats, ou de nos candidats en route pour les trophées Europe 1 La France Bouge.
David Marouani, vous êtes le PDG de Gérard Dahl. Vous restez encore avec nous quelques minutes?
Avec plaisir.
Suite et fin de votre émission.
Europe 1.
Il est 13h52.
Dans un instant, demain au travail, notre monde change et nos entreprises aussi.
Oui, on va passer un coup de fil à une entreprise qui propose à ses nouveaux salariés de partir ou à l'étranger. C'est pas mal ça comme idée. Allez, on voit ça dans un instant. Oh là là, ça passe chaque jour trop vite. Voilà déjà la dernière partie de votre émission. La France bouge aujourd'hui avec David Maruani, qui est le patron de la marque de vêtements Gérard Darrel.
Et notre monde change. Et nous, on vous raconte comment les entreprises changent aussi, comment elles s'adaptent. Bonjour Paul Courteau.
Bonjour.
Vous êtes le président de NeoBrain. C'est une entreprise qui conseille et qui aide les autres entreprises à préparer leur avenir. Vous existez depuis 3 ans.
Vous êtes basé à Paris, à Lisbonne, vous avez 72 salariés en tout. Et si vous êtes en direct avec nous dans la France Bouge, c'est parce que vous êtes rapidement rendu compte qu'il y avait un besoin sur le marché de profils compliqués à recruter, comme par exemple des data scientists ou autres que l'on recherche énormément en ce moment. Et vous êtes rendu compte qu'à Lisbonne, par exemple, il y avait pas mal de profils comme ça. Vous avez recruté et vous avez du coup envoyé certains de vos salariés là-bas. L'idée, c'est ça, c'est vous leur payer une sorte d'Erasmus professionnel ?
C'est ça, effectivement. C'est l'occasion de descendre un peu plus dans le sud, au soleil, au bord de la mer.
Pas mal.
Donc, c'est de bénéficier d'un cadre de vie très agréable et stimulant à la fin.
Donc, vous avez proposé à 3 de vos salariés, des data scientists, ils étaient déjà formés d'aller à Lisbonne. Leur point commun, c'est qu'ils ont tous moins de 30 ans. C'est fait exprès ?
C'est ça. C'est pas fait exprès, mais effectivement, cette flexibilité de pouvoir partir voyager, ça s'adresse quand même principalement à ceux qui ont moins d'attaches ou moins de contraintes familiales. Qui les bloque à Paris. Donc c'est sûr que ça s'adresse principalement à des publics jeunes sans enfants pour l'instant, mais voilà, c'est principalement ceux qui en bénéficient.
Et dans ce marché où c'est si compliqué de trouver de bons data scientists, j'imagine que c'est aussi un petit avantage concurrentiel pour dire venez chez nous, vous serez certes basé à Paris, mais vous allez faire des petites balades à Lisbonne et vous verrez, c'est sympa.
C'est sûr, c'est qu'en tout cas, face aux banques françaises qui recrutent beaucoup de data scientists, on ne peut pas rivaliser sur le salaire de la même manière. Mm-hmm. Donc, c'est important pour nous de trouver une alternative et le projet de vie, le projet de confort de vie, d'ailleurs qui s'est accéléré avec la crise sanitaire, c'est effectivement un moyen pour nous d'accéder à des profils très précis dans un budget qu'on peut s'offrir.
Donc vous avez testé, ça marche, ça plaît à vos salariés et donc vous avez mis en place une sorte de processus parce que chez vous, dans votre entreprise, dès qu'on a 3 ans d'ancienneté, vous proposez de partir 6 mois et vous permettez aux salariés de faire ce qu'ils veulent en quelque sorte.
Oui, c'est ça, effectivement. C'est au-delà du fait qu'on puisse partir au Portugal à n'importe quel moment, notre souhait, c'est de se dire qu'au bout d'un moment, au bout de 3 ans dans son poste, 3 ans dans l'entreprise, c'est naturel que des salariés se posent la question et aient envie de monter un projet, envie de vivre quelque chose, d'aller faire le tour du monde. On pense qu'ils ne devraient pas avoir besoin de choisir entre les deux. Donc, on leur offre 6 mois dans lesquels ils peuvent faire le tour du monde s'ils le souhaitent et avoir leur emploi garanti au retour.
Eh bien, ça donne envie, ça, Paul Courteau, le patron de NeoBrain. On bouge aussi quand on est chez Gérard Darrel, David Maruani. On peut aller diriger un magasin aux États-Unis ou je ne sais trop où.
C'est un peu plus compliqué quand même à organiser pour des activités
ça
comme les nôtres.
Ça fait rêver,
franchement, ça serait très, très sympathique, peut-être pour le futur. Mais c'est vrai que nous, on est quand même encore très sur le produit, il faut quand même le toucher, il faut le voir.
Pourquoi pas, une petite formation, et on y va, direction New York. Merci à vous, David Maruani. Vous êtes le PDG de Gérard Darrel. Merci d'être venu dans La France Bouge aujourd'hui.
Allez, nous, on file tout de suite à la gare de Lyon.
On prend un train,
puisqu'on se retrouve demain à Carcassonne. Pourquoi faire ? Eh bien, on sera en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie de l'Aude pour parler formation, pour parler apprentissage. Et notre grand témoin demain sera le directeur des ressources humaines d'Airbus. 130 000 collaborateurs dans le monde, environ 30 000 encore en France.
Allez, à demain. Dans un instant, le flash suivi de Christophe Ondelat.